le temps où les services secrets occidentaux pouvaient commettre gratuitement des tueries, semble être terminé. Mais comment? Voyons le cas de Niger. Alors qu'une tuerie a eu lieu dans le village de Teim, une attaque lors de laquelle 19 civils ont été tués et 2 autres ont été blessés, la population est sur le point de tourner ce défi à son avantage. Abou Aboubakar, député de la préfecture de Filing, est signataire d'une déclaration alerte sur la situation. « C'est un devoir pour nous dire les mots, les souffrances que vit la population de la région de Tillaberi, afin d'interpeller le gouvernement pour pouvoir y remédier », indique-t-il. Les gens sont traumatisés. Ils ne partent plus aux champs parce que dès que vous sortez de votre village, vous passez dans les champs et vous pensez peut-être croiser des terroristes. On a demandé au gouvernement de prendre vraiment toutes les mesures pour renforcer la présence des FDS, les forces de défense et de sécurité, pour protéger davantage cette population et leurs biens. De plus, nous avons demandé, nous ne le souhaitons pas, mais qu'en cas d'attaque, qu'il y ait une intervention rapide des forces de défense et de sécurité, et surtout l'intervention aérienne. Nous demandons vraiment à l'État qu'il y ait une couverture. On ne peut pas mettre chaque militaire dans un champ, non. Qu'il essaye d'avoir la maîtrise de l'espace dans lequel ces terroristes évoluent. Que veut le député nigérien? L'implication à l'image du Burkina, des FDS, en soutien d'une armée sous contrôle plus ou moins renforcée de Barkhane. Une FDS qui aura la charge de faire face aux côtés de l'armée aux éléments infiltrés au sein de l'armée nationale pour rendre son action antiterroriste plus efficace. Une armée de l'air nigérienne indépendante qui combat les terroristes entraînés et formés par les agents et services occidentaux. Ce n'est pas pour rien si le Niger a annoncé il y a une dizaine de jours avoir l'intention de créer une nouvelle base aérienne. Réuni en Conseil des ministres, en fin de semaine dernière, le gouvernement a annoncé la construction prochaine d'une base aérienne à Diffa et a adopté un projet de décret déclarant d'utilité publique cette installation baptisée BA-501. Cette base devrait permettre d'augmenter la capacité de riposte des forces armées nigériennes. Bien que depuis cette annonce, les médias mainstream ne cessent de souligner le manque de matériel et de moyens de l'armée de l'air nigérien, mais est-ce possible d'avoir de rafales nigériennes pour bombarder les terroristes étant donné que suite à des années de colonisation qui règnent encore sous divers prétextes sur les pays sahéliens, ces pays n'ont pas réussi à acquérir les moyens aériens pour assurer leur sécurité. Une information relayée par Afrique Intelligence fait d'ailleurs état des pressions de Paris pour faire échouer les velléités du Tchad et du Niger qui souhaitaient modifier les statuts de la CESNA, une organisation régionale gérant la sécurité aérienne de nombreux aéroports sur le continent. Que faire? Le schéma moyen-oriental est présent sous les yeux des Sahéliens. Une armée de l'air asymétrique à l'image de celle du Yémen. Le Niger pourrait suivre le schéma des pays moyen-orientaux qui, au lieu de se fier à l'Occident, se sont tournés vers des pays qui savent comment résister face aux sanctions et pressions des pays de l'axe de la résistance, dont l'Iran. D'ailleurs, lors de sa rencontre avec le président de l'Assemblée nationale du Niger, le président Ibrahim Raisi a déclaré que l'élargissement des liens avec les pays africains, dont le Niger, est l'une des principales priorités de l'Iran, en particulier pendant son mandat. Le nouveau président iranien a déclaré que le niveau actuel des relations bilatérales Téhéran-Niamey est insatisfaisant, réitérant « Les ministères des Affaires étrangères de l'Iran et du Niger doivent élaborer et mettre en œuvre des plans et des feuilles de route pour identifier toutes les opportunités dans les deux pays visant à élargir les liens, puisque les relations avec les pays africains, dont le Niger, font partie des priorités de la nouvelle administration iranienne. » Ce qui laisse également à penser que cette initiative du Niger de construire une base aérienne militaire sur son sol pourrait être liée à ce partenariat approfondi qu'entretiennent Téhéran et Niamey. Le Niger a une volonté approfondie de se libérer une fois pour toutes des mains des forces néocolonialistes et pour ce, il peut compter sur l'Iran. Le fait que de jeunes Nigériens comme Abdulaziz Kounché, le petit-fils de l'ancien chef d'État Séni Kounché, procèdent à l'innovation de drones 100% made in Niger montre clairement que la population souhaite suivre le schéma de l'indépendance des pays comme l'Iran. Le Niger, où le Pentagone dispose de sa plus grande base de drones au monde, a déjà prouvé qu'il n'a besoin ni des forces US ni de leurs acolytes franco-israéliens. La bioarme, le massacre du peuple ou encore les pressions exercées contre l'armée ne pourront en aucun cas faire céder le Niger face aux forces occupantes. On s'est demandé toujours pourquoi les Mirage 2000 frappaient sans crainte la population africaine et notamment malienne, bien que la France sache quel sera l'impact d'une telle gourde. Sachant tous les impacts, la France l'a fait et aujourd'hui, on comprend le pourquoi. Ils cherchaient l'exode de la population, à l'effet de pouvoir implanter dans le centre du Mali des bases d'attaque et d'opérations, d'où cette histoire de Boni qui se trouve dans le centre-est du Mali, non loin de Bounti. Le bilan de l'embuscade tendue jeudi par des individus armés contre un convoi de l'armée à Boni dans le centre du Mali a été revu à la hausse, soit 15 soldats tués, selon un communiqué officiel de l'armée malienne jeudi. Un convoi FAMA quittant Douenta pour Boni a été la cible d'une attaque complexe. Le bilan provisoire fait état de 15 morts et des blessés côté FAMA, indiquait le colonel Souleymane Dembélé, directeur de l'information et des relations publiques des armées dans un communiqué publié quelques heures après le premier bilan donné, lit-on dans les médias. Le document note que le chef d'état-major général des armées, après avoir prié pour le repos de l'âme des disparus et présenté ses condoléances les plus attristées aux compagnons d'armes et aux familles, renouvelle sa confiance et son soutien aux forces armées maliennes qui ne ménagent aucun effort pour le rétablissement de la paix et de la sécurité. Puisque la force d'occupation est exclue du Nord, il lui faudrait donc une substitution et c'est dans le centre qu'il cherche à s'infiltrer à coup de ce genre de massacre. Un centre où il a tenté de faire place nette pendant longtemps en provoquant les conflits interethniques, Peul, Dogon, etc. Les Maliens connaissent particulièrement ce genre de jeu d'ailleurs depuis des décennies. La France et les colons, en général, ont souvent mis en place des politiques sournoises afin de préserver leurs colonies en Afrique et ça, les populations africaines les connaissent comme leur poche. Ces 600 soldats qui, en croire RFI, le G5 Sahel a désengagé de la région des trois frontières, étaient-ils des indociles ? À lire le texte de RFI, quand il le dit, on le croirait. Le Tchad a annoncé ce samedi 21 août avoir retiré la moitié de ses effectifs déployés en février au sein de la force anti-djihadiste du G5 Sahel dans la zone dite des trois frontières, zone frontalière du Mali, du Niger et du Burkina Faso. Mais de bonnes sources, c'est l'entretien des troupes tchadiennes qui poserait problème, rapporte le correspondant à N'Djamena, Magiastranaku. C'était même l'une des conditions posées par le Tchad que les partenaires n'ont pas respectées et pour éviter des désagréments, le contingent a dû être rapatrié, lit-on sur RFI. Et pourtant, Macron avait fait feu de toute voix il y a 2 ans pour que le défunt président tchadien envoie cette force armée dans cette même région. À l'effet, plaiderait-il Macron de contribuer plus efficacement à la guerre contre le terrorisme. Mais que s'est-il passé entre-temps? Le président Déby a été liquidé par un coup d'État monté de toutes pièces par la France. La France s'est retranchée derrière l'axe US-OTAN, lui servant désormais de tremplin, et pourtant de cette armée tchadienne forte et unie, il reste beaucoup d'officiers fidèles à l'ex-président dont la présence semble toujours vicier les plans US-OTAN Barkhane. Barkhane en est-il arrivé à cette conclusion que sans cette armée tchadienne, il serait plus facile de faire infiltrer ses agents dans cette région à l'effet de lancer des attaques de plus en plus simultanées contre les 3 États frontaliers que sont Burkina, Niger et Tchad? Mais il y a un autre aspect à ce rapport de RFI. Au moment où les pays du Sahel tendent à créer des coalitions interafricaines, le Niger appuyant le Burkina appuyant le Bénin, et le Bénin s'ouvrant à la Guinée et la Côte d'Ivoire, le fait de réduire l'armée tchadienne à un corps où les effectifs se râleraient pour un peu plus d'argent ne vise qu'à affaiblir l'idée même d'un noyau d'une coalition interafricaine propre à contrer les ingérences étrangères. Et puis, le média colonialiste suggère aussi à travers ce texte une guerre inter-tchadienne à venir quand il dit que cette force armée part dans le nord du Tchad combattre les rebelles. Surtout qu'il met l'accent sur la situation précaire intertchadienne et le blocage que certaines figures de l'opposition ont mis à l'idée du dialogue national, réclamant même que ce dialogue se déroule à l'extérieur des frontières tchadiennes. Tout ceci n'augure rien de bon pour le Tchad post-Idriss Déby, sur quoi la France et les puissances colonialistes comptent pour faire une deuxième Libye. Dans le cadre de son initiative de soutien aux entreprises touchées par la COVID-19, la SFI réalise son troisième engagement dans le secteur de la santé au Ghana. L'apport renforcera un secteur majeur mais encore sous-investi. La Société financière internationale annonce son troisième investissement dans le secteur des soins de santé au Ghana depuis l'avènement de la pandémie de COVID-19. L'institution membre du groupe de la Banque mondiale et en charge du secteur privé dans les marchés émergents investira 3 millions de dollars au sein de Quest Medical Imaging pour la construction d'installations de diagnostic au Ghana. Les nouvelles installations, qui devraient être fonctionnelles d'ici 2022, aideront QMI, détenu majoritairement par le Sud-Africain Bergman Ross & Partners Incorporated, à adresser un diagnostic précis à plus de 5 000 patients par mois, contre 3 000 actuellement. Cet engagement s'inscrit dans le cadre d'une initiative de la SFI datant de 2020 dans le but d'apporter des financements nécessaires à la lutte contre la COVID-19. Au Zimbabwe, la filière avicole est l'un des principaux moteurs du secteur de l'élevage. Après avoir traversé une année 2020 difficile, l'industrie espère rebondir en 2021. Au Zimbabwe, les perspectives sont au beau fixe dans l'industrie avicole. D'après Twili Kubé, ministre des Finances, la production de volailles devrait connaître une croissance de 5% à 156 000 tonnes durant cette année après un repli en 2020. Pour la responsable, cette embellie s'explique par l'abondance de l'alimentation animale grâce à la bonne production de maïs et de soja. En 2021-2022, par exemple, la récolte de maïs, qui compte pour plus 60% du montant de la ration alimentaire, a en effet grimpé à 2,7 millions de tonnes, soit son plus important niveau depuis 1984. Ce facteur devrait contribuer à faire baisser le coût d'approvisionnement en matières premières sur le marché intérieur. Avec le bon approvisionnement du marché intérieur, le gouvernement s'attend également à une reprise de la production de poussins d'un jour. Celle-ci avait en effet chuté de 73,4 millions à 71,4 millions d'unités en 2020, avec le déficit dans l'alimentation animale qui a fait flamber les prix et les coûts de production. La quatrième grande commission mixte RDC-Burundi se tiendra à Kinshasa du 31 août au 2 septembre 2021. Elle était initialement prévue du 10 au 12 août. Le report a été sollicité par la partie burundaise. Cette réunion vient renforcer les liens entre les pays, note le compte rendu du Conseil des ministres. Elle intervient près d'un mois après la visite d'Évariste Ndayishimiye dans la capitale congolaise. Nous allons faire avec le Burundi ce que nous avons fait avec l'Ouganda et le Rwanda. Cela veut dire joindre nos efforts à travers nos services de défense et de sécurité pour traquer les ennemis de la paix. Une porte reste toujours ouverte pour proposer à ces ennemis de la paix de se rallier à l'initiative de mettre fin à la violence dans cette région, avait alors dit le chef de l'État congolais. Le 17 août 2021, les responsables du bureau de gestion du fret terrestre ont reçu, dans leurs locaux à Douala, la capitale économique du Cameroun, une délégation béninoise conduite par Unilo Medegan Fogla, le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information de son pays. Les hôtes béninois, apprend-on, sont venus s'inspirer de l'expérience camerounaise en matière de gestion du fret terrestre. Le Cameroun a été identifié parce que ce pays a mis en place un système de gestion électronique du fret. Notre pays nous a envoyés pour venir constater, visiter les installations et échanger avec les acteurs pour voir comment implanter la même chose chez nous, a confié Apollinaire Lisoire, responsable du fret, à l'Agence nationale des transports terrestres du Bénin, organe technique lié au Syndicat national des transporteurs du Cameroun. Le BGFT a pour mission d'organiser et de coordonner l'activité du transport terrestre au Cameroun. Très controversée depuis des années, cette structure est souvent accusée par des syndicats d'asphyxier les transporteurs au moyen d'importants prélèvements. Bien plus, des sources dans les milieux du transport terrestre soupçonnent le BGFT de ne pas toujours reverser à l'État certains prélèvements effectués auprès des transporteurs pour le compte du Trésor public. Autant d'accusations que les responsables de cette structure démentent.